Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre dans cette lorgnette spéciale, cette première émission consacrée aux élections municipales de Blois. Elles seront quatre au total. Nous avons longtemps cherché ici à Studio ZEF comment réaliser un contenu qui nous ressemble dans le cadre de cette élection qui arrive. Et puis nous avons discuté avec d'autres structures associatives du social et du culturel et nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de rester sur ces thématiques qui nous importent. Et puis nous avons convié ces structures sociales et culturelles à venir échanger avec les candidats donc à la mairie de Blois pour évoquer les sujets, les questions et les projets qu'ils portent pour la ville. Bienvenue donc dans cette lorgnette spéciale municipale. Et bienvenue donc au premier candidat qui inaugure ce format en direct pour des raisons de planning évident. Les autres seront enregistrées, elles seront évidemment faites équitablement dans les conditions du direct. Mais bonjour à vous, merci de nous rejoindre en studio, Malik Benakcha.
Bonjour à tous et merci de m'avoir invité.
Eh ben avec grand plaisir donc pour donc cette première émission et pour ces émissions, on a décidé, comme je le disais en introduction, donc d'orienter la conversation sur nos sujets entre guillemets prioritaires, donc que sont la culture, le social et le monde associatif. Évidemment, je n'exclus pas que cela déborde un peu à la marge de ces sujets, mais je suis là pour recadrer et réorienter si on partait trop loin éventuellement. Nous avons une heure de temps maximum devant nous pour rester dans ce format de la lorgnette, et donc pour échanger et discuter de votre programme sur ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir des structures bien connues qu'on reçoit bien souvent ici à Studio ZEF. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Rémi Breton, directeur du Château d'Eau et donc piloté par l'association Mars. Merci d'être là. Loredana, bonjour.
Bonjour.
Loredana Méchin, directrice de la maison de Bégon, maison de quartier. Et tu es venue, Loredana, avec une des coprésidentes de la maison de quartier, Marie-Noël Chalumeau. Bonjour.
Bonjour.
Il va falloir parler un tout petit peu plus du micro. Je vais l'augmenter. Je suis à la technique. Tout va bien se passer, Marie-Noël. Donc, Marie-Noël, tu es la coprésidente de la maison de Bégon. Voilà pour l'introduction. Je vous laisse. Malik, vous présenter éventuellement, faire un petit propos liminaire, comme on dit dans les commissions d'enquête qui sont très à la mode en ce moment. Un petit propos liminaire sur ces questions de la culture, du social et de l'associatif. Et puis ensuite, on va lancer la conversation avec vos trois, pas contradicteurs forcément, mais en tout cas, vos trois invités, nos trois
curieux.
Invités.
Trois curieux.
Vos trois curieux et curieuses. Ah, c'est parti, je vous laisse la parole.
Mais tout d'abord, encore une fois de plus, merci de l'invitation. Merci également aux trois curieux de se prêter au jeu, de consacrer du temps, parce qu'effectivement, une élection municipale, c'est un moment fort de la vie démocratique, c'est un temps fort qui a un impact directement sur la vie des Blaisois, et en particulier sur les thématiques qu'on va aborder, hein, que ce soit le social, que ce soit la culture, ou que ce soit le monde associatif. Moi, donc, je suis Malik Benakcha, je suis élu sortant, je suis chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, je rassemble l'ensemble de l'Union de la droite et du centre, donc l'ensemble et les principales forces d'opposition, avec un enjeu simple, hein, c'est que aujourd'hui Blois fait partie des villes où on peut proposer un nouveau souffle après 18 ans de mandat du maire sortant, et donc avec cet enjeu de pouvoir améliorer ce qui ne va pas, conserver ce qui convient. Et donc c'est avec enthousiasme, que je suis là pour répondre à vos différentes questions.
Très bien. Eh bien, on va commencer donc avec une série de questions autour de la culture, de son financement, de votre vision politique de la culture. Qui se lance ?
Marie-Noël.
Marie-Noël, à toi.
En effet, nos premières questions, c'était plus autour du budget alloué aux associations culturelles et socioculturelles. Parce que, en effet, le contexte économique est complexe aujourd'hui pour les collectivités territoriales, puisque l'État vous impose des baisses depuis plusieurs lois de finances, hein, sans pour autant revoir à la baisse les prérogatives. Donc, toutefois, pour nous, l'échelon communal reste primordial pour le financement des associations, et notamment des structures culturelles, socioculturelles. Et c'est de loin, pour beaucoup, le premier financeur. Donc la première question, c'est si vous êtes élu le 22 mars prochain, pouvez-vous nous détailler comment vous entendez doter le budget associatif et plus précisément culturel et socioculturel, en détaillant fonctionnement et investissement. Voilà, première question.
Très bien, merci pour cette question. Alors un premier élément, et je pense qu'il y a une idée répandue à laquelle il faut tordre le cou, c'est pas parce qu'on est de droite qu'on veut à tout prix attaquer les budgets des associations, attaquer les budgets de la culture. Au contraire, j'ai presque envie de dire que le vrai enjeu aujourd'hui, et quand on parle aujourd'hui des sujets des finances de la ville, nous notre priorité c'est la rigueur, la bonne gestion budgétaire, le fait d'être rigoureux dans la gestion budgétaire. Et aujourd'hui on a un vrai enjeu, c'est de se dire que l'ensemble des euros qui vont être investis ou dépensés par la ville de Blois doivent tout de suite venir en service directement aux Blaisois. Et donc aujourd'hui, notre principale préoccupation sur ces thématiques-là, c'est bien de se dire comment est-ce qu'on va hiérarchiser les différents financements. Et j'ai un premier exemple qui va concerner cette fois-ci l'ensemble du monde associatif. C'est tout simplement déjà veiller à ce que le budget du monde associatif soit sanctuarisé, mais surtout qu'il soit mieux distribué. Aujourd'hui, en fait, il y a une forme d'opacité. On ne sait pas pourquoi, comment, combien l'année prochaine vont avoir les différentes associations, parce qu'en fait, il n'y a pas de critères réellement clairs. Aujourd'hui, la difficulté qui se pose, et qui est parfois des remarques que l'on entend, c'est de se dire bah, il faut avoir une proximité avec tel ou tel élu, ou au contraire, il faut faire partie des sujets dont tel ou tel élu a de l'appétence pour pouvoir avoir des financements. Nous, notre proposition, elle est relativement claire, et c'est quelque chose qui existe dans de nombreuses collectivités, c'est tout simplement de mettre en place des critères, une grille qui permette à chacun de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il va pouvoir prétendre à pouvoir bénéficier des ressources de la collectivité, qui va pouvoir bénéficier des deniers publics. Alors ces critères, ils sont nombreux et ils vont être co-construits avec les associations. Parmi eux, il y a effectivement le nombre d'adhérents, il y a effectivement dans quelle mesure est-ce que l'association participe au rayonnement de la ville, il y a effectivement dans quelle mesure est-ce que l'association vient accompagner aussi des publics prioritaires, que ce soit quand on parle du sport sur le sport féminin ou autour du handisport, que ce soit dans le domaine de la culture autour de quartiers prioritaires de la ville. Et donc aujourd'hui, tous ces éléments-là sont des critères que l'on va pouvoir construire ensemble, de manière à ce que sur une enveloppe qui sera sanctuarisée, on veille à ce qu'il y ait une réelle équité qui soit mise en place, et surtout que vous ayez aussi une visibilité de façon pluriannuelle. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, notre enjeu n'est pas de faire des associations des dépendants de l'action publique, des dépendants de la collectivité, mais au contraire pouvoir contractualiser sur le long terme de manière à ce que ensuite vous puissiez prévoir des investissements, que vous puissiez envisager des enjeux sur le fonctionnement, pouvoir prendre des décisions avec une vision à long terme, parce qu'en réalité, gérer un budget à l'année ou à l'année, ça reste toujours quelque chose d'assez compliqué. Avoir une vraie visibilité sur le long terme, c'est ce qu'on doit vous apporter. Empêcher à ce que vous ayez une dépendance directe du pouvoir politique, c'est ce qu'on doit vous proposer. Et également s'assurer à ce que, eh bien, on n'ait pas non plus une forme de action, de censure ou de rôle politique sur vos différentes actions. C'est pour ça que moi, l'enjeu de la pluriannualité, elle est importante. L'enjeu de mettre en place des critères qui soient clairement définis en amont avec vous est particulièrement important, parce que ça permet simplement de mettre en place de l'équité et de mettre fin à du clientélisme.
Merci. Et donc, plus globalement, quelle place souhaitez-vous donner à la culture ?
Alors aujourd'hui, le sujet de la culture, c'est un sujet qui est assez global, parce qu'en fait, la culture, ça fait partie de ces thèmes qui sont particulièrement transversaux. C'est vrai que souvent, quand on rédige un programme municipal, les Blaisois vont avoir l'occasion d'avoir le nôtre dans quelques jours, voire quelques heures maintenant dans leur boîte aux lettres. On a scindé ce programme en différentes thématiques. Il y a le sujet de la sécurité, il y a le sujet du commerce, il y a le sujet du pouvoir d'achat, il y a le sujet de l'environnement. Mais en fait, si on regarde bien la thématique culture, souvent on me reproche, on me dit, bah tiens, il n'y a pas une thématique grande, t'as pas fait 10 pages sur la culture, et bien il y a deux éléments à prendre en considération. Déjà, nous, notre rôle est de faire des propositions sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qu'on doit améliorer. Donc naturellement, à part dire que quand ça fonctionne bien, on va conserver, il y a sur certains éléments, et il faut le reconnaître, moi je suis le premier à le reconnaître, que sur certains points, en particulier notamment dans le domaine de la culture, il y a des succès ici à Blois qui remontent à une trentaine d'années en réalité, qui sont des choses à conserver, et ça c'est des choses effectivement qu'on va conserver. La culture, c'est quelque chose qui est parfaitement transversal, et en fait, quand on parle culture, on parle aussi sécurité. Parce que quand on parle culture, on parle intégration. Quand on parle culture, on parle vivre ensemble. Quand on parle culture, on parle fraternité. Et par conséquent, eh bien, la culture, elle est aussi systémique, elle est aussi transversale sur d'autres thématiques. Quand on parle culture, on parle aussi commerce. Effectivement, le fait d'avoir une attractivité culturelle, le fait d'avoir de l'événementiel, le fait de donner aux gens envie de sortir à des manifestations ou tout simplement de participer à un concert et avant le concert aller au restaurant et après le concert aller boire un verre, eh bien ça vient aider le commerce. Quand on propose aussi aujourd'hui de étendre le pass culture à un pass vivre sa ville, c'est aussi intervenir sur les notions de pouvoir d'achat. C'est tout simplement faire en sorte à ce que demain l'ensemble des Blaisois ait un pass qui soit effectivement utilisé pour la culture. C'est déjà le cas aujourd'hui, ça fait partie des succès qu'il faut conserver, mais même mieux que ça, qu'il faut réussir à étendre, et que dans la vie associative, quand on prend son bus, quand on va demain aller à différentes activités liées à la municipalité, eh bien que ce pass puisse avoir le même usage, le même rôle. Et donc, par conséquent, c'est aussi démocratiser encore plus ce pass culture. Et enfin, on parlait aussi des thématiques tout à l'heure autour de l'environnement, qui sont une fois de plus mes quatre grands thèmes. Eh bien, la culture, elle permet aussi de faire passer des messages. Et aujourd'hui, on est à Studio Zef, on sait ce que fait la maison de Bégon, on sait aussi ce que fait le château d'eau. Ben, vous avez aussi une action dans la sensibilisation des Blaisois, que ce soit les plus jeunes ou des moins jeunes, qui va aussi permettre à ce qu'on fasse de la pédagogie et qu'on participe à tous ces éléments qui vont être liés au développement durable, à l'environnement. Donc aujourd'hui, la culture, effectivement, c'est quelque chose qui est une priorité, même si ce n'est pas le premier chapitre de notre programme.
Merci.
Je vais intervenir.
Vas-y, Rémi.
On ne peut plus rien dire. Vous avez tout dit en 5 minutes. L'heure va être très longue, je vous l'avoue. Mais je voudrais revenir sur 2-3 points que vous venez d'évoquer. Par exemple, il y avait des réussites et des choses qui ne fonctionnent pas. Quelles sont ces choses qui ne fonctionnent pas?
Je m'étais noté la même question, Rémi.
Oui. Aujourd'hui, sur les sujets de réussite, on le voit bien, de toute façon, on a une vie associative qui est de façon parfaitement étendue et à Blois, un réel succès. On a de nombreuses associations, on a aujourd'hui du bénévolat. On voit, comparé à d'autres villes où le monde associatif et le bénévolat se meurent, on sent qu'à Blois, il y a toujours ce dynamisme, et ça, c'est quelque chose d'important, de très enrichissant et qui vient impacter l'attractivité de la ville. Par contre, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, il faut avoir des actions, et ça rejoint la première question tout à l'heure sur le financement. Quand on parle culture et finance, en ce moment, on a tous en tête le sujet du projet de théâtre. Et bien, quand nous, aujourd'hui, on dit qu'il faut effectivement mettre une pause sur ce projet d'un théâtre à 20 millions d'euros, c'est tout simplement avoir en tête qu'aujourd'hui, de toute façon, les enveloppes, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ne sont pas des enveloppes extensibles, voire même mieux que ça, sont des enveloppes qui commencent à être de plus en plus contraintes. Donc l'enjeu, c'est d'être capable à la fois de sanctuariser, à la fois de prioriser. Aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que construire un nouveau bâtiment est une priorité. Par contre, continuer à accompagner des associations qui fonctionnent bien. Je prends l'exemple de la maison de Bégon où il y a effectivement un accompagnement que vous faites, notamment lors de la guinguette. Il y a toute l'action sociale, le maillage territorial que vous faites, le travail autour de l'intégration, tout le travail avec la jeunesse, l'ancrage dans le quartier, le sujet autour des musiques actuelles, etc. Tous ces éléments-là sont des choses qui fonctionnent. J'étais présent lors de votre dernière assemblée générale ou lors du rapport moral et financier. C'est quelque chose qui avait été parfaitement partagé. Ça fait partie des succès. On a aussi dans les succès, quand on parle de la culture à Blois, on l'oublie trop souvent parce que c'est un festival, mais pourtant c'est un vrai marqueur de la culture blaisoise. Généralement, on oublie de faire ce lien-là. C'est par exemple les rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, les rendez-vous de l'histoire, c'est le parfait exemple de combien et comment la culture a un rôle dans la vie blaisoise. On parlait tout à l'heure du commerce. Eh ben, pourquoi est-ce qu'on a réussi à étendre une saison touristique? Comment est-ce qu'on fait pour que Blois soit une ville qui soit visitée et ensuite revisitée? Parce qu'on a aussi des temps forts. Les rendez-vous de l'histoire en sont un. Moi, je regrette, effectivement, c'était lors du premier mandat de Marguécourt, il y avait eu un risque à ce que les rendez-vous de l'histoire puissent s'en aller. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu, c'est faire en sorte à conforter les rendez-vous de l'histoire, faire en sorte à même étendre ce festival. C'est déjà le cas avec aujourd'hui les rendez-vous de l'économie. Il faudra demain qu'on ait des réflexions en lien avec les associations, que vous soyez encore plus intégrés à ce type de grand événement, de manière à ce que les rendez-vous de l'histoire, ce ne soit plus une semaine, mais deux semaines demain.
Donc on a plutôt des réussites dans votre discours,
oui.
Si ce n'est ce point qui a déjà été noté, qui a fait un peu polémique sur le nouveau théâtre. Alors vous savez qu'il y a des associations qui sont labellisées. La scène nationale est un label de l'État. Et il y a des enjeux économiques forts par rapport à ce label et une volonté de la DGCA, Direction Générale de la Culture, de la Création Artistique. Et est-ce que c'est pas un risque de perdre des atouts financiers en arrêtant le projet?
Alors, il y a une vraie réflexion parce qu'effectivement, c'est pas nouveau, il y a une épée de Damoclès au-dessus du label scène nationale concernant nos équipements et en particulier concernant l'équipement théâtre. Aujourd'hui, la vraie réflexion, c'est de se dire, est-ce qu'il y a urgence, sachant que de toute façon, ça fait des années qu'on a cette épée de Damoclès, que le label est en fait rarement, sinon jamais retiré par ailleurs. C'est pour ça que deux fois en combien de temps
depuis
qu'il existe. Donc aujourd'hui, la vraie réalité, c'est qu'on essaye de nous faire croire à une urgence parce que je crois qu'il y a une volonté de vouloir marquer d'un point de vue architectural la ville avec ce théâtre dans une forme de barreau d'honneur, de fin de mandat, etc. Moi, mon propos est tout simplement de se dire quelles sont les priorités, comment est-ce qu'on hiérarchise, comment est-ce qu'on prévoit, parce que gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui, mon sentiment est plutôt de me dire que plutôt que d'investir énormément d'argent. Au final, le théâtre, on dit 20 millions d'euros. Donc ça, c'est 1 million d'euros pour le contribuable, 6 millions directement pour le budget de la ville de Blois. Et ensuite, il y a aussi tous les coûts de fonctionnement qui vont arriver derrière. Qu'on soit bien clair, les budgets, notamment culturels et associatifs de la ville de Blois, ne pourront pas s'étendre. Créer des nouveaux espaces qui vont coûter de l'argent, comme ce nouveau théâtre, vont être des choses qui, de toute façon, vont avoir un impact sur les structures qui existent aujourd'hui aussi. C'est pour ça que nous, notre priorité, c'est de se dire qu'il faut déjà sanctuariser, vous accompagner à éventuellement trouver d'autres sources de financement, que ce soit autour du mécénat, que ce soit autour des subventions, comme des subventions européennes, etc., avant d'engager de nouvelles dépenses, où on va se retrouver avec un même gâteau à devoir répartir encore plus, et les premiers qui vont trinquer, ce sera vous.
Mais juste pour continuer sur ce sujet, vous avez parlé d'attractivité, c'est important l'attractivité d'une ville. Est-ce que ce nouveau théâtre, c'est pas un plus, serait pas un plus dans l'attractivité, pour l'attractivité de la ville, entre autres sur le tourisme d'affaires, où là, ça coince assez souvent pour accueillir plus de séminaires, d'événements, et que voilà.
Et à Blois Congrès, au niveau de Blois Congrès, parce que
Un argument qui est avancé par la majorité, qu'en fait, un argument en réalité fallacieux aujourd'hui, des espaces pour accueillir des congrès, on en a. On en a même de nouveaux et qui sont récents, comme la salle du jeu de paume. On en a qui sont insuffisamment utilisés, que ce soit la maison de la magie, que ce soit le château. Donc moi, je veux bien qu'on dise, attention, on va réussir à libérer la Halle aux Grains parce qu'on refuse aujourd'hui 30 congrès. Bah, si on refuse aujourd'hui une trentaine d'événements, c'est peut-être qu'on n'a pas été capable suffisamment bien, au-delà des sujets de planning, au-delà des sujets de calendrier, de promouvoir et de commercialiser les autres espaces dont on dispose et qui, eux, peuvent aussi accueillir, effectivement, ce type de manifestation. Donc, effectivement, il y a le sujet du tourisme d'affaires. Moi, je ne crois pas que le théâtre qui va, effectivement, libérer en partie la Halle aux Grains, parce qu'aujourd'hui, si on regarde précisément, quand il y a un congrès à la Halle aux Grains, où est-ce qu'il se passe ? Il ne se passe pas forcément, systématiquement, spécifiquement, dans l'espace qui est lié au théâtre. Il se passe plutôt sur le parvis, il se passe dans la grande salle. Et aujourd'hui, en fait, on a vraiment cet argument, et c'est presque assez désolant de voir que, j'ai presque à dire, certains tombent dans le panneau sur ce sujet-là. Le sujet du tourisme d'affaires doit être une priorité. Aujourd'hui, on a déjà énormément d'équipements qui peuvent accueillir du tourisme d'affaires et qu'on n'utilise pas suffisamment. Donc la question du théâtre, l'argument du tourisme d'affaires, ce n'est pas un argument qui tient, selon moi.
Sur les lieux de culture, puisqu'on y est un petit peu, je voulais vous interroger sur la question qui agite l'association BD Boom dernièrement, avec un projet de délocalisation de la maison de la BD. Alors, pour faire quoi de ce lieu qui serait inoccupé, et pour mettre une association qui fonctionne bien et qui est un vrai succès? Je pense que vous ne nierez pas le succès annuel du festival BD Boom. Pour en faire quoi?
Alors, c'est assez intéressant parce que déjà, ça va me permettre aussi de répondre au sujet, enfin de continuer de poursuivre un petit peu sur le sujet du théâtre. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des choses qui ne fonctionnent pas ou qui peuvent être améliorées sur le domaine de la culture. La maison de Bégon, je pense, est un très bon exemple. Le sujet, c'est de réussir à faire sortir des murs la culture. Faire sortir aussi de l'hyper-centre-ville, de manière à ce qu'on n'ait pas uniquement cette logique un petit peu, on va dire parfois élitiste, de la culture, et souvent la scène nationale est considérée comme ça. Le vrai enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte à ce que d'autres quartiers, que ce soit le quartier Ouest, que ce soit le quartier Blois-Vienne, que ce soit en renforcement de ce que fait aussi la maison de Bégon, le quartier Nord, comment est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte à ce que la culture puisse sortir de cet hyper-centre-ville. Et donc aujourd'hui, effectivement, au sujet de l'hyper-centre-ville, ça va de la place de la République, où aujourd'hui il y a la Halle aux Grains, jusqu'à l'espace des Jacobins, où aujourd'hui il y a le festival et BD Boom. Sur le sujet de BD Boom, effectivement, ça a un petit peu agité. Ça a agité, c'était deux éléments. Le premier, et c'était la première chose que moi j'ai dénoncé, c'est que le signataire du communiqué, derrière, est un ancien membre du comité de soutien de Marc Grécourt. Donc j'ai presque envie de dire que la ficelle était relativement grosse et qu'il y avait un vrai sujet là-dessus, sur ce sujet aussi d'indépendance de différentes associations. Moi, je suis très attaché au fait que demain, l'ensemble des associations culturelles, l'ensemble des associations soient parfaitement indépendantes. Là, on a vu qu'il y avait peut-être un sujet qui se cachait à cet endroit-là. Et le deuxième point, c'est aussi que sur le fond, moi j'avais eu l'occasion de rencontrer Bruno Genini il y a 6 ans, parce qu'en fait, en 6 ans, le débat est resté parfaitement le même. Il y a 6 ans, on avait le sujet de la Halle maraîchère, on avait le sujet du carré Saint-Vincent. En 6 ans, le carré Saint-Vincent n'est pas sorti de terre, ça fait plus de 20 ans que c'est un serpent de mer. Et puis, le sujet de la Halle maraîchère, qui était déjà il y a 6 ans, lors des dernières élections municipales, fléché vers le carré Saint-Vincent, par le maire de Blois, le maire sortant, et qui, moi, au contraire, disait qu'il faut faire en sorte à ce que Blois regarde à nouveau la Loire et que l'Alma Maraîchère soit plutôt en proximité de la place Louis XII, parce que c'est le cœur commerçant, parce que c'est là où il y a le marché du samedi, parce que c'est là où il faut renforcer la dynamique commerciale et la dynamique du commerce de bouche, et bien qu'il y avait une réflexion, en fait, à remettre l'Alma Maraîchère là où elle a été. Remettre l'Alma Maraîchère là où elle était, c'est le Crous, c'est effectivement Bédéboum. Aujourd'hui, le sujet de Bédéboum, qu'on soit bien clair, son accessibilité, le fait qu'il soit positionné exactement à cet endroit-là, n'a pas aujourd'hui d'impact. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne traverse cette rue et se dit « Ah bah tiens, je vais pousser ce musée-là ». Il y a un enjeu à faire en sorte à ce que, pas ce musée, pardon, cette maison-là, faire en sorte à ce que la maison de la BD soit un endroit qui, effectivement, puisse permettre d'accueillir du public, où on puisse facilement se stationner, où les scolaires puissent continuer à venir, où le festival continue à prendre de l'ampleur, ça n'implique pas, ça n'impose pas qu'il soit forcément en ce lieu-là. Donc, il y a 6 ans, j'avais rencontré l'actuel, et qui était déjà le directeur de la maison de la BD. On avait eu l'occasion d'en débattre, on avait eu l'occasion d'en parler, et moi, j'avais clairement dit que ça se ferait de toute façon en concertation. Donc, le communiqué tel qu'il est sorti, disant que la maison de la BD était en danger, était effectivement, selon moi, un communiqué qui était un communiqué téléguidé, et ça pose une vraie question, et c'est un des enjeux et un des engagements que moi je prends, c'est qu'en aucun cas les associations culturelles, en aucun cas vous serez mises à contribution dans un débat politique, vous serez utilisées dans un débat politique. Votre indépendance est à mes yeux la première condition de l'ADN de la culture. Il faut que vous ayez effectivement cette indépendance, et quand on voit aujourd'hui qu'il y a des ficelles aussi grosses qui sont tirées, on peut s'interroger.
Mais du coup, déménager, faire l'Alma Maraîchère, ça va avoir des coûts encore supplémentaires ?
Alors en réalité non, parce que l'Alma Maraîchère était déjà sur cet espace-là. Le bâtiment est effectivement aujourd'hui quasiment neuf. Hein. C'est un bâtiment qui a été rénové. Mmh. Et qu'on soit bien clair, l'Alma Maraîchère au Carré Saint-Vincent va coûter de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on a un terrain vague. Donc aujourd'hui, on est simplement sur une question de fléchage. Il n'y a pas de question de surcoût. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi une vraie réflexion sur laquelle il faut s'interroger, c'est de se dire, l'Alma Maraîchère, pour qu'elle fonctionne demain, donc pour qu'elle ne coûte pas demain, où est-ce qu'elle doit être bien placée ? Si elle est placée au niveau du Carré Saint-Vincent, elle ne fonctionnera pas. Elle risquerait même de coûter aux commerçants qui sont aujourd'hui dans l'hypercentre, sur la rue du Commerce, la rue des Orfèvres, etc., au niveau de la place Louis XII, et en fait, on va se retrouver sur un gouffre financier. Donc j'ai presque envie de vous répondre, c'est une économie que d'envisager la Alma Maraîchère plutôt au niveau de la place Louis XII, et la réflexion qui doit être posée, qui doit être le vrai débat, c'est quel serait le meilleur emplacement pour la maison de la BD. La maison de la BD, à aucun moment, a demandé à être ici. En fait, c'est presque un sujet de conduite du changement. C'est presque une question par rapport à comment est-ce qu'on peut s'adapter. Quel serait le meilleur lieu demain pour la maison de la BD ? Il peut y avoir plusieurs pistes de réflexion. Il y a eu une réflexion que j'avais proposée il y a 6 ans, qui aujourd'hui n'est plus possible, qui était au sujet de l'Hôtel Dieu, parce que l'Hôtel Dieu appartenait à l'époque à la ville. Il a depuis été, on a vendu les bijoux de famille, il a depuis été vendu au rabais à un promoteur immobilier. Ça pouvait être une solution. Il y avait une autre réflexion qui peut être aussi en lien avec un musée du patrimoine. La BD fait partie du patrimoine de Blois. Moi, je défends la création d'un musée du patrimoine de Blois qui concernerait le chocolat, qui concernerait l'horlogerie, la mécanique de précision. On a eu des illustres à Blois. On a effectivement le sujet de la BD. On a le sujet aussi de tout ce qui va concerner le château royal, etc. Il peut aussi y avoir une réflexion par rapport au château en tant que tel, qui est aussi un foncier qui pourrait être encore dynamisé avec et grâce à la culture. Hein. Le château, c'est pas simplement visiter des pierres, c'est aussi participer à des manifestations, participer à des expositions et avoir un lieu en résidence de façon quasiment permanente. Ça peut être une réflexion. Et enfin, il y a aussi la Halle aux Grains. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Le vrai enjeu, c'est de se dire comment est-ce que demain on peut avoir une vraie concertation constructive, de manière à faire en sorte à ce que l'Alma Maraîchère trouve sa meilleure place. Et pourquoi pas la maison de la BD trouve sa meilleure place aussi.
J'insiste un petit peu.
Bien sûr. Hein,
mais tous ces projets, en plus, les coûts de fonctionnement vont être très importants. Est-ce que ce seront des projets municipaux ou des projets dédiés à des associations
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est si on reprend les différentes propositions que j'ai faites, à chaque fois, il y avait derrière une forme de mutualisation. Quand on retourne à la Halle aux Grains, quand on envisage d'aller à proximité ou dans le château, ou effectivement quand on a cette question, qui là serait une création avec un coût d'un musée du patrimoine, en fait on est vraiment sur des sujets qui concernent effectivement de la mutualisation. Donc il y a à la fois cette double difficulté qui est d'un côté, on souhaite faire en sorte à ce que la culture puisse être hors les murs, tout ne soit pas concentré en cœur de ville, mais en même temps réussir à créer des mutualisations. Et c'est là où, une fois de plus, c'est à travers la concertation qu'on va réussir à trouver le bon équilibre. Moi, mon sujet n'est pas de dire que la culture ne doit pas coûter d'argent. La culture coûtera toujours de l'argent, ça c'est une réalité. Par contre, on peut aussi réfléchir aux externalités positives. Alors c'est pas quelque chose qui comptablement se mesure. Il n'y a pas de ligne financière ou de ligne comptable qui peut dire qu'on a investi un euro dans la culture et puis on en a récupéré deux. Mais par contre, être capable de se dire qu'on va faire une bonne gestion, qu'on va mutualiser, qu'on va trouver des espaces qui vont permettre justement à des structures comme la Maison de la BD de pouvoir faire venir des touristes, de pouvoir faire venir des endroits où effectivement il y a du chaland. C'est pour ça que la proximité avec le château peut être aussi une vraie réflexion. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis par rapport effectivement à la question de la Maison de la BD au niveau de l'Hôtel Dieu, qui était la réflexion que j'avais il y a 6 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt fléché pour un espace muséal pour leur joue. Bah, c'est tout simplement que si on veut demain qu'un projet ne fonctionne pas, il suffit de le mettre aussi loin que ça du cœur de ville. Aujourd'hui, la Maison de la BD peut, il y a plusieurs solutions, j'en ai cité quelques-unes, peut trouver un espace où à la fois elle reste accessible aux scolaires, où à la fois elle reste accessible au quotidien pour les Blaisois, et aussi où elle peut être un lieu de visite pour les touristes, parce qu'on a une vraie réalité, un vrai enjeu à réussir à développer, c'est que les touristes multiplient leurs expériences sur le Blaisois.
Petite question, vous l'avez évoqué, puis vous évoquiez en début d'échange une rigueur, une gestion rigoureuse des financements. Est-ce que vous venez juste de pointer l'idée qu'un euro investi dans la culture pourrait ou ne pas remporter 2 euros? Est-ce que pour vous, la culture doit être rentable?
La culture, elle l'est par définition, en fait. Parce que, une fois de plus, la question, c'est comment se mesure cette rentabilité. Vous savez, je suis issu d'un
milieu modeste. Alors, quels sont vos indicateurs ?
Je suis issu d'un milieu modeste. J'ai un père, un grand-père qui sont issus de l'immigration. J'ai réussi à m'engager dans la vie active, dans la vie professionnelle, dans la vie économique du Blaisois. Aujourd'hui, je suis commerçant, chef d'entreprise. Et comment est-ce qu'on a réussi à faire cette intégration ? Bah, par deux éléments, l'éducation et la culture. Et aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment de devoir dire que je suis un exemple, mais en tout état de cause, ça montre bien que tout ce qui a pu être investi par le passé pour participer à une intégration, pour participer à l'élévation intellectuelle de nos enfants, de nos jeunes, mais aussi de nos différentes populations, et bien tout ça a des externalités parfaitement positives. Donc j'assume de dire qu'effectivement, la culture, d'un point de vue purement comptable sur les finances de la ville, ne peut pas être rentable. J'assume de dire que par contre, la culture est un investissement social et que par conséquent, comme tout investissement, il a vocation à rapporter. Mais il rapporte sur des externalités qui ne se mesurent pas par le chiffre, pas de façon pécuniaire, pas de façon sonnante et trébuchante, mais par des réalités, par des réalisations, par une intégration, par des populations qui ont cette fraternité, ce fameux vivre ensemble. Et donc effectivement, la culture, par définition, est rentable, mais à une seule condition, par contre, c'est qu'effectivement, on évite de faire des gabegies. Et aujourd'hui, j'ai une vraie crainte avec l'exemple dont on citait tout à l'heure concernant le théâtre. Puisqu'aujourd'hui, il y a déjà un espace théâtral et qu'on n'a pas besoin, une fois de plus, c'est en fait la vraie vision de la culture. Est-ce qu'aujourd'hui, la culture, ça doit être construire des nouveaux bâtiments? Ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, ça doit être accompagner des structures qui existent déjà à pouvoir notamment diversifier, par exemple, leurs sources de revenus? Parce que, quoi qu'il en soit, il y a l'épée de Damoclès, ce n'est pas sur la scène nationale. L'épée de Damoclès, elle est sur toutes les associations. Ça, elle est sur Studio Zef, elle est sur toutes ces structures qui dépendent de financements publics différents.
Laurie Dana, tu voulais prendre la parole et puis on fait une courte pause juste après.
C'était une bonne transition sur notre sujet suivant. Vous l'avez dit plusieurs fois, la culture permet de s'épanouir, évidemment, de sensibiliser sur des thématiques diverses. Vous parliez de l'environnement, mais sur d'autres champs également. Donc nous, évidemment, à travers ça, nous prônons l'accessibilité à la culture pour tous. Et cette sensibilisation, elle se fait par l'action culturelle et l'action socioculturelle. Aujourd'hui, les budgets et les dispositifs dédiés aux actions culturelles, elles sont revues à la baisse tout le temps et elles sont de plus en plus proposées sous forme d'appels à projets. Alors nous, on le vit au quotidien, à la Maison de Bégon, les appels à projets, on y répond beaucoup, c'est très lourd au niveau administratif, et puis du coup tout ça, ça complique la mise en place des actions, et cela au détriment souvent des personnes qu'on veut accompagner. Donc aujourd'hui, pouvez-vous nous détailler comment vous entendez travailler la question de l'action culturelle en lien avec les structures culturelles du territoire? Et puis, quelle importance vous souhaitez y donner? Bon, vous avez répondu un petit peu pour vous, ça semble quand même primordial. Mais comment vous l'entendez, cette question?
Allez, votre réponse, et puis on fait une petite pause juste après.
Très bien.
Aujourd'hui, monsieur Benacchi.
Le sujet, on l'a dit, le sujet, c'est priorité à la modernisation de l'existant plutôt qu'aux grands projets dispendieux. La question que vous avez posée, elle est intéressante parce qu'effectivement, vous êtes de plus en plus soumis aux appels à projets. Or, ce qui est assez important, c'est bien prendre en considération, c'est que les deux associations qui sont en face de moi sont deux grandes associations qui, malgré tout, ont les moyens de répondre aux appels à projets, quand bien même c'est compliqué. Imaginez les plus petites structures qui ne disposent pas ni de salariés, ni de la force de frappe dont vous disposez, qui elles sont encore plus en difficulté. Nous, notre proposition, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que le rôle de la municipalité doit être de vous accompagner à trouver de nouveaux mécènes, de nouvelles sources de financement, et bien c'est effectivement de mettre en place un service, qui soit une ou deux personnes, qui soit dédié à vous accompagner pour aller chercher ces fonds municipaux, agglopolis, régions, départements, État et Europe, et là, il y aura une réelle économie à faire. C'est-à-dire que cet argent, dès l'instant que vous allez réussir à aller trouver d'autres financements, eh bien, effectivement, vous serez peut-être un peu moins exigeant, un peu moins demandeur d'avoir des augmentations de la part de la collectivité municipale. Moi, je crois qu'effectivement, le cofinancement et les multiples financeurs, eh bien, c'est à la municipalité de vous accompagner à pouvoir, vous aussi, profiter un petit peu de cette part du gâteau et ainsi faire en sorte à ce que la municipalité vous accompagne sans forcément vous perfuser en euros.
Alors nous, c'est déjà le cas. Hein. Nous, les associations comme nous, c'est déjà le cas. On est financés par plusieurs collectivités. Et nous accompagnons beaucoup d'associations en difficulté. Évidemment, quand une association est composée uniquement de bénévoles et qui n'ont pas cette spécificité, nous sommes là pour les guider. Ce n'est pas facile parce que les appels à projets, même si on guide les associations, demandent énormément d'investissement en temps et demandent aussi beaucoup de risques financiers, puisqu'aujourd'hui, nous... Alors, ce n'est pas le cas de la ville de Blois, hein. Mais aujourd'hui, nous dépendons de réponses qui sont extrêmement tardives, qui arrivent même quelquefois après que l'action soit passée. Et donc, on est sans cesse en train de prendre un risque et qui, pour nous, des structures comme nous, mesurées, mais pour des petites assos, et c'est ce qui nous inquiète actuellement, c'est le risque, il est trop énorme et on le voit bien autour de nous. Il y a déjà des associations qui s'arrêtent et c'est très dangereux pour la vie en collectivité, la vie pour une ville comme Blois où il y a un vrai tissu associatif qui est présent mais qui est très solidaire aussi.
Vous pourrez répondre une dernière fois puisque Loredana a repris la parole, donc je vous la laisse pour répondre à Loredana Malik.
Oui, moi je vais vous citer deux exemples qui sont des exemples très récents, très concrets, qui illustrent parfaitement ce que vous venez de dire et qui montrent justement que je crois que la municipalité peut être parfaitement beaucoup plus proactive dans l'accompagnement aux associations. Premier exemple, c'est une association dont moi je suis administrateur, qui n'est pas dans le domaine culturel mais qui est dans le domaine du sport, c'est l'exemple du Blois Foot 41, où aujourd'hui on est sur une association qui ne peut plus accueillir de nouveaux adhérents. On a de la demande, hein, des jeunes qui ont envie de venir jouer au foot, qui ont envie de porter le même maillot, qui ont envie d'apprendre à jouer collectif, à apprendre des valeurs, à respecter l'arbitre, etc. Et aujourd'hui, faute de terrain, on ne peut pas accueillir plus de licenciés. On a un porteur de projet, qui est l'actuel président du Blois Foot, qui a dit sur ses propres deniers personnels, il était prêt à venir investir, à lui-même financer un nouveau terrain à Blois. Vous auriez eu ça dans une autre collectivité. Le maire aurait mis l'ensemble des services d'arrache-pied à travailler toute la nuit, pendant deux nuits, pour réussir à trouver la bonne solution. Et bien en fait, ça, c'est une proposition qui date d'il y a plus de 3 ans. Il y a une problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a un endroit qui est fléché. J'ai accompagné et j'ai travaillé sur ce dossier pour que ce terrain de foot soit, par exemple, du côté de Blois-Vienne. Il y a une difficulté, c'est qu'à Blois-Vienne, tous les 100 ans, il y a une crue. Et parce que tous les 100 ans, il y a une crue, alors que le maire pourrait signer une dérogation, alors que le maire pourrait changer le PLUI, alors que le maire pourrait travailler de concert avec la préfecture pour faire modifier le plan de prévention des risques d'inondation, eh bien en réalité, depuis 3 ans, on a un porteur de projet qui est à la tête d'une association, qui donne son corps à la science, qui aujourd'hui est prêt à aller de ses propres fonds personnels pour faire quelque chose d'important pour la collectivité, pour l'intérêt général. Et il n'y a pas eu la proactivité attendue de la part de la municipalité. Ça, c'est au contraire un comportement qu'on n'aura pas. Et bien au contraire, on fera en sorte à ce que les projets associatifs soient parfaitement accompagnés. J'ai un deuxième exemple, qui est l'association Alire. Je suis administrateur de l'association Alire. C'est une association qui participe à promouvoir la formation, en particulier auprès d'un certain nombre de publics, notamment à travers, par exemple, le français langue étrangère. Aujourd'hui, c'est une association qui dépend énormément des fonds de la région. Et bien, effectivement, elle a lancé, à travers le dernier plan de formation régional, elle a lancé à nouveau des actions de formation, dont les financements tardent à arriver. Et on est sur une association qui va, dans quelques heures, voire quelques jours, risquer de déposer, d'être en liquidation, alors que celui qui devrait appuyer sur le bouton, c'est... le premier financeur de la région, le premier vice-président de la région. Il se trouve que c'est aussi le maire de Blois. Et là, on est encore sur une association qui est quasiment abandonnée, alors que son rôle social, son rôle d'intégration est particulièrement important. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça où effectivement la proactivité de la municipalité peut être pour vous une ressource tout aussi précieuse que la subvention que vous touchez.
Merci pour toutes ces questions et toutes ces réponses, Malik Bennakcha. On fait une petite pause, on boit un coup, il fait chaud dans le studio, on est nombreux et ça travaille. On se retrouve dans 4 minutes, à tout de suite. You are. C'était Gossip avec Standing in the Way of Control. Nous sommes toujours dans cette première émission dédiée à l'élection municipale de Blois. Nous recevons pour cette première émission Malik Benakcha, donc candidat de la droite et du centre à cette élection. Je suis entouré de Marie-Noëlle Chalumeau et de Loredana Méchin qui représentent la Maison de Bégon et de Rémi Breton qui représente l'association Mars et le Château d'Eau. Rémi, c'est toi qui reprends la parole pour continuer à questionner notre candidat.
Oui, alors nous sommes partis sur l'idée aussi, dans tous ces questionnements, d'avoir une vision un peu plus élargie, puisque les secteurs culturels, associatifs et sociaux sont impactés sur tout le territoire. Donc il y a un exemple qui est assez frappant, c'est la concentration qui se passe dans le monde du spectacle vivant. Là, ça va être un peu plus spectacle vivant. Et le nombre d'événements culturels qui augmente au détriment du travail de terrain que font certaines associations, dont vous aurez peut-être la chance de discuter avec elles. Et il y a cette exacerbation sur les territoires, sur les différentes typologies et les jauges. Voilà. Alors, le Château d'Eau, c'est une très grosse association, c'est sûr, mais... pas si grosse que ça.
Non plus.
Et moins importante que certains groupes qui font du spectacle et qui ne font pas du spectacle pour la cohésion sociale, qui font du spectacle pour l'économie. On a un équipement à Blois, important, que vous avez cité tout à l'heure, et qui peut être amené à travailler sur ce secteur d'activité, on va dire musique aujourd'hui. Comment entendez-vous travailler le cahier des charges de la salle du jeu de paume à l'avenir pour qu'il y ait peut-être un impact moins important auprès des gens qui vont sur des spectacles un peu moins chers?
Aujourd'hui, on a une réflexion effectivement sur la question de la salle du jeu de paume. C'est que le cahier des charges, tel qu'il a peut-être été conçu, il avait d'abord été conçu pour un usage de la salle du jeu de paume qui n'était ni les congrès, ni les spectacles, mais d'abord le sport. Aujourd'hui, on a, avec les récents investissements qui ont été portés notamment par la SASP-ADA, accompagnés notamment par les financeurs publics, on a effectivement le centre de performance qui est sorti de terre, qui aujourd'hui existe, qui aujourd'hui fonctionne, et déjà ça nous permet effectivement de pouvoir envisager de rééquilibrer l'usage de la salle du jeu de paume pour d'autres usages que effectivement ce qu'on pourrait appeler le spectacle sportif, que peuvent être parfois les matchs de l'ADA. Donc déjà, en fait, cette réflexion, elle va s'imposer à nous. L'ADA va déjà moins utiliser, en termes de jours calendaires, l'équipement qui est la salle du jeu de paume. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et qui est une vraie réflexion, c'est de se dire, est-ce que la salle du jeu de paume doit fonctionner avec un tourneur, avec une programmation culturelle qui serait en régie? Ou est-ce qu'au contraire, elle doit être un équipement qui serait mis à disposition des différentes associations? Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, effectivement, on a des associations qui sont capables de le faire, parce qu'elles le font déjà depuis des années. Je connais bien, du coup, le fonctionnement de l'association Mars, hein, du temps où c'était à travers les CCSPL. Chaque année, je crois que j'étais présent pour écouter les différents rapports annuels que vous aviez l'occasion de nous présenter. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on peut faire confiance, effectivement, au monde associatif existant. Quand tout à l'heure, je parlais de moderniser l'existant plutôt que de partir sur des projets dispendieux, et ben je crois que là on est effectivement sur un bon exemple. Pourquoi pas à ce que demain ce soit un équipement comme pour la Hallograin qui soit plus mis à disposition des associations existantes plutôt que de créer des nouveaux fonctionnements, que de mettre en régie des collaborateurs qui chercheraient à la faire vivre, alors qu'en réalité on a effectivement aujourd'hui un tissu associatif qui en est capable, et au contraire ce serait une bonne manière de vous aider. Je prends un autre exemple qui est un exemple pour le coup qui est un exemple qui fonctionne. On pourrait très bien envisager demain lorsqu'il y a la guinguette, ce qui aurait pu être réfléchi par le passé, à ce que le fonctionnement de la buvette soit fait par la municipalité directement ou par une personne dédiée. Le fait aujourd'hui de l'avoir mis à disposition, et ça fonctionne bien tel que ça fonctionne aujourd'hui en lien avec la Maison Bégon, et bien c'est aujourd'hui aussi une manière de vous accompagner. Donc je crois que mettre à disposition les équipements, mettre à disposition aussi des événements, comme on a aujourd'hui les rendez-vous de l'histoire, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi d'autres événements forts annuels, ça peut être une manière à la fois de faire preuve de confiance vis-à-vis d'où, de vous aider à trouver d'autres et de nouvelles sources de financement, et puis surtout que vous puissiez faire ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire de la programmation culturelle, de l'événementiel culturel, de la culture pour tous.
Et vous n'avez pas peur que les calendriers se télescopent trop fortement ?
Bah ça va être la bagarre habituelle. Hein. Je parlais tout à l'heure des terrains de foot, on a la même chose avec les différentes associations.
Ce n'est pas aussi simple que ça, puisqu'il nous est arrivé deux fois de programmer au jeu de paume. C'est très très compliqué d'avoir en même temps la disponibilité de l'artiste et de la salle.
On a exactement la même difficulté avec nos équipements sportifs, où effectivement il y a différentes associations qui partagent. Je crois que la municipalité, son rôle c'est effectivement de faire en sorte à ce que le collectif fonctionne, de vous aider à aussi mettre en place des règles de priorisation, qu'une fois vous ayez fait un effort en ayant fait une annulation, que le coup d'après ce soit l'autre structure qui fasse l'effort. Bon, là-dessus j'ai aucune difficulté au fait de dire qu'on serait un peu chef d'orchestre, parce qu'on est détenteur, on a la responsabilité de l'équipement, mais par contre vous faire confiance pour que vous puissiez l'utiliser encore plus, c'est quelque chose que naturellement on pourra envisager avec grand plaisir.
Okay. Très bien. Vous avez déjà un peu parlé du prochain sujet. Vous avez évoqué la guinguette. Certaines municipalités organisent des événements culturels plutôt en extérieur ou pas d'ailleurs. Parfois à bon escient, en complémentarité avec ce que les structures locales proposent. Et parfois, à contrario, en faisant fi de l'existant et en mettant en concurrence le tissu associatif notamment. Du coup, vous, en vue de maintenir un équilibre territorial cohérent, pouvez-vous nous détailler comment vous entendez travailler votre offre culturelle gérée en direct ? Parce qu'en plus, dans votre programme que du coup j'ai téléchargé avant de le recevoir dans ma boîte aux lettres,
elle a bien travaillé,
vous évoquez sur le 12e point des mesures fortes, la transparence dans l'attribution. Non, c'est pas du tout ça. Excusez-moi, je reviens.
J'en ai parlé tout à l'heure de la transparence dans l'attribution des subventions aux associations.
Vous évoquez un événement culturel, sportif, convivial, et vous évoquez entre parenthèses notamment tout sur le pont et le Ramdam.
Oui. En fait, on a un vrai enjeu, et c'est là où tout à l'heure je disais que la partie culturelle, l'événementiel, participe aussi à la vie touristique, participe aussi à la vie commerciale. Il faut qu'on réussisse à multiplier ces événements. Il faut réussir à faire en sorte à ce que, je pense par exemple à une piétonnisation de la rue Denis Papin, de la rue Porte-Côté, etc. On a vu que lorsqu'il y a effectivement des événements qui sont organisés par la municipalité, on va le voir bientôt avec le carnaval aussi, ça peut être des temps forts où les commerçants peuvent aussi réussir à se tirer leur épingle du jeu et à profiter et à montrer qu'ils sont présents, qu'ils sont existants. C'est l'occasion aussi pour un certain nombre de populations qui ne sont pas habitantes en cœur de ville, qui habitent souvent en périphérie, soit Villebarousse, soit Cellettes, ce soit Contres, des gens qui viennent pour cet événement à Blois et qui ensuite puissent se dire « Ah bah tiens, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, maintenant j'ai vu qu'il y a telle enseigne ou j'ai vu que maintenant il y a telle offre, telle association, etc. » Ça peut être des temps forts pour recréer cette attractivité. Aujourd'hui, la question qui se pose effectivement, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte à multiplier ces temps forts sans les faire rentrer les uns et les autres en concurrence. C'est exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure avec le sujet de la salle du jeu de paume et de l'usage de la salle du jeu de paume. L'enjeu, c'est non pas de voir une concurrence, mais plutôt des synergies. Qu'on puisse ponctuer demain la fin des rendez-vous de l'histoire par un temps fort culturel, par un événement qui puisse être de l'ordre du spectacle vivant. Ça peut être une réflexion très intéressante. Que demain, la guinguette, on parlait tout à l'heure de la guinguette, moi j'ai une vraie réflexion qui est une réflexion personnelle. Aujourd'hui, on ne l'a pas mis dans notre programme parce que ça doit faire l'objet de concertation. Moi, j'ai le sentiment que la guinguette, elle a... intervient, c'est un moment fort, mais qui intervient sur un temps qui est beaucoup trop réduit. Quand on pense à de nombreuses familles qui peuvent pas forcément partir en vacances, où c'est un moment de respiration, un moment de bol d'air, un moment où on va avoir un temps où on va pouvoir sortir et pouvoir s'amuser, et bien qu'aujourd'hui on ait peut-être une réflexion pour rallonger. Donc c'est pas concurrencer, c'est au contraire créer une synergie, profiter d'un équipement qui est existant, profiter d'une buvette qui fonctionne, se dire bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour rajouter une journée, deux journées, trois journées d'événements supplémentaires pour ces choses qui fonctionnent. Bah, au contraire, moi j'ai plutôt le sentiment qu'on crée de la synergie et moins de la concurrence.
Je pense que en fait c'est la problématique que je soulevais tout à l'heure.
Exactement.
Une guinguette de trois semaines, ça demande des finances supplémentaires, ça demande
beaucoup d'énergie.
Non, la réflexion sur la guinguette, parce qu'on le voit, hein, il y a différentes guinguettes dans tout un tas de collectivités. Faut pas partir du principe, enfin en tout cas, au contraire, je dis ça dans l'autre sens. Nous sommes partis du principe qu'avant de faire des propositions, on allait voir ce qui se passait ailleurs, ce qui fonctionnait ailleurs et ce qui dysfonctionnait ailleurs. On parlait tout à l'heure de la Halle-Maraîchère ou d'un carré Saint-Vincent. On a vu la manière dont le carré Saint-Vincent aujourd'hui est pensé à Blois. C'est quelque chose qui a été pensé dans d'autres villes et qui aujourd'hui aboutit à des verrues, à des choses qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on souhaite l'arrêter. Aujourd'hui, la réflexion autour de la guinguette, c'est une réflexion à se dire, est-ce qu'effectivement on doit être sur un format court et intense, ce qu'on vit aujourd'hui, ou un format plus long qui peut parfois un petit peu s'endormir. La vraie question, c'est aussi quel volet. Moi, je ne vois pas demain une guinguette fonctionner pendant 3 semaines avec cette même intensité.
Non,
par contre,
pas possible.
Dès l'instant que le parquet est installé, dès l'instant que la scène est installée, on peut éventuellement, un peu en amont ou plutôt après, avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on peut profiter de l'équipement, parce que c'est un coût hein, que d'installer
oui,
tout ça,
sûr.
Avec une organisation qui pourrait être aussi confiée à d'autres associations, on en revient encore à des synergies, à permettre à d'autres de profiter de cet amphore, pour avoir une guinguette qui se rallonge, mais peut-être sur le temps de rallonge qui soit évidemment beaucoup moins intense que ce que vous vivez, ce qu'on vit tous pendant le temps de la magnifique guinguette de la Creusille.
Très bien, Marie-Noël ?
Non, on a déjà répondu.
Ah, d'accord.
Alors, je voudrais, il nous reste peu de temps finalement, c'est passé vite. Je voudrais qu'on se garde les 10 dernières minutes à parler des associations au sens large, même si évidemment ça a été transversal sur toute la conversation. Sauf si Rémi, tu voulais.
J'avais un point que je voulais mettre avant.
Vas-y.
Et qui,
c'est l'heure des questions diverses alors.
Je me prends pas tout
c'est l'heure des questions diverses, Rémi.
C'est la liberté de création et censure. C'est un sujet qui revient depuis 3 ans de plus en plus souvent. Et on a l'impression que alors l'État, les collectivités, tout le monde a son mot à dire sur un choix artistique.
Ce qu'il faudrait faire et ne pas faire, diffuser et ne pas diffuser.
Je trouve ça un peu étonnant. Ça, sur la loi LCAP relative à la liberté de la création, à l'architecture au patrimoine, il est dit, et c'est une loi, qu'on a toute liberté pour le faire. Pour autant, il y a des collectivités, je vais prendre une parce qu'elle est LR, la région Île-de-France a supprimé une subvention qui avait été votée au festival Rock en Seine à Saint-Cloud.
À l'occasion du passage du groupe
NICAP. Voilà, je trouve. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez une sensibilité particulière ou
Oui, pas. Là-dessus, je vais vous répondre très franchement.
Bah oui, j'espère.
Quand les 15 et 22 mars, les Blaisois vont faire confiance à une équipe, je souhaite à ce que ce soit celle que je présente, ils nous font confiance aussi pour la gestion des deniers publics. Aujourd'hui, financer ne veut pas dire financer les yeux fermés. Il est normal, à mes yeux, que dès l'instant qu'on finance, on puisse non pas avoir un droit de regard, on n'est pas là pour faire de l'ingérence politique, on n'est pas là pour censurer, mais qu'en tout état de cause, quand tout à l'heure je parlais aussi de critères pour les grilles aux associations, c'est un objectif aussi d'accompagner sur ce que nous on considère, puisqu'on a la légitimité populaire, puisqu'on a la légitimité du peuple, que ce qu'on considère comme étant cohérent avec la confiance qui nous a été apportée par ceux qui financent, à savoir le contribuable. Que demain, par contre, parce que vous avez des financements externes, que vous fassiez la création qui vous convient, cela ne me pose aucune difficulté. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ce sera oui pour tout, les yeux fermés. Il y a parfois des actions qui sont des actions militantes. On l'a vu récemment, on le voit aussi aujourd'hui à travers des associations qui sont financées à Blois. Je pense par exemple au planning familial, qui parfois sort de son rôle initial, de son ADN, pour participer à des manifestations et à des actions politiques. Eh bien, à ce moment-là, je n'ai pas le sentiment que c'est le rôle du contribuable de forcément financer ce type d'action. Donc qu'il y ait demain une vision, un partage, une concertation, c'est quelque chose qui me paraît assez cohérent parce qu'une fois de plus, nous sommes les financeurs, nous avons eu la confiance pour participer au financement. Par contre, qu'on rentre dans une logique d'ingérence et de censure, soyez rassurés, moi je ne serai pas à regarder votre programmation et à vous demander de venir la signer avant que vous puissiez la proposer.
Dans la lignée de la question de Rémi, je voudrais évoquer avec vous, c'est la question de Rémi, je ne l'avais pas anticipé, c'est la question de Rémi qui m'y a fait penser, le contrat d'engagement républicain que doivent signer les associations, notamment dans le cadre de certains appels à projets, suscite beaucoup de défiance dans la majeure partie des associations. Je voudrais avoir votre avis sur ce document, sur cet engagement que les associations, qui pourtant travaillent tous quand même dans un but commun de vivre ensemble et de vie citoyenne. Quel est votre point de vue sur cette question, d'engagement républicain ?
Je suis très attaché à la fois à la liberté d'expression et à la liberté associative. Et la liberté associative, elle est très simple. On peut créer une association pour défendre quasiment tout ce qu'on veut. Par contre, effectivement, il y a parfois des associations qui peuvent avoir une logique qui peut poser des questions. On l'a vu, hein, il y a eu récemment des dissolutions d'ailleurs d'associations militantes et c'était quelque chose qui, selon moi, était nécessaire. Il y a une réflexion aussi à se dire que parfois il peut y avoir des associations qui sont peut-être trop communautaires, dont le rôle, et elles ont une raison, hein, une fois plus, d'exister dès l'instant qu'elles fonctionnent. On prend l'exemple, par exemple, d'associations culturelles. Quand aujourd'hui, vous avez un bâtiment religieux qui se construit, que ce soit une nouvelle église, une église évangéliste, que ce soit une mosquée, que ce soit un nouveau bâtiment, il est financé par le monde associatif. Qu'il soit financé demain par le contribuable, non. Puisqu'une fois de plus, c'est ça l'engagement républicain. Aujourd'hui, ce qui est le socle de notre vivre ensemble, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est cet engagement républicain. Que demain, lorsqu'on va devoir financer des actions, on dise, bah, par contre, les respects sont simples, la laïcité, l'engagement républicain, etc., que ça fasse partie des critères. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ça permet de mettre un cadre pour éviter des excès ou pour éviter des déviances.
Je continue alors sur le soutien et puis on va tirer sur la fin de l'émission, sur le soutien au monde associatif, avec une question peut-être transversale qui est celui de l'hébergement des associations. La plupart des associations, notamment ici à Blois, sont hébergées par la mairie dans des locaux associatifs. Je parle alors pour la mienne, mais ça, c'est un sentiment partagé quand on voit, alors j'ai oublié la localisation, derrière le club de bière, la rue d'Orgelès, le bâtiment associatif rue d'Orgelès, dans des locaux qui sont parfois vétustes et mal isolés, etc. Donc on est sur un sujet plus transversal. Comment gérer ces locaux associatifs qui sont parfois compliqués, dans lesquels il est parfois compliqué de vivre, de se réunir, de travailler pour celles qui ont des salariés?
Alors déjà, c'est important, et c'est important que les auditeurs en aient bien conscience, hein. Aujourd'hui, la municipalité n'aide pas les associations qu'à travers des subventions. Il y a effectivement tous ces avantages en nature.
Absolument.
Lors de l'organisation d'une manifestation, lorsqu'on vient installer des barrières, lorsqu'on vient sécuriser, lorsqu'on vient accompagner, il y a effectivement tout cet accompagnement en nature qui concerne la partie résidence, vous autoriser et vous permettre d'avoir des espaces qui sont des espaces de travail. J'en reviens à l'exemple et à une phrase que j'ai déjà dit tout à l'heure, moderniser l'existant plutôt que de partir sur des projets dispendieux. Et bien effectivement, pour moi, il y a une priorité aujourd'hui à faire en sorte à ce que la maison des associations, voire la future maison des associations, soit un espace de travail, un espace d'accueil qui soit beaucoup plus confortable pour l'existant, plutôt que d'aller dépenser 20 millions d'euros sur un nouveau bâtiment dont, une fois de plus, l'usage pose encore des questions quant à son extrême nécessité. Donc effectivement, moi, mon propos là-dessus, il est assez clair. On a un vrai enjeu, je vais même plus loin que ça, qui est même plus global, hein, qui dépasse, qui concerne aussi les écoles, etc. En 20 ans, on n'a pas mis le paquet sur la rénovation thermique des bâtiments. On n'a pas mis le paquet sur le fait d'investir sur les bâtiments municipaux. Or, si on avait fait ces investissements il y a 20 ans, on les aurait déjà rentabilisés, ne serait-ce qu'à travers les économies d'énergie. Je pense que ce retard qui a été pris est une erreur. C'est quelque chose qu'il va falloir que l'on corrige. Et effectivement, le fait demain d'avoir un investissement suffisant pour accueillir les associations est quelque chose qui me paraît assez cohérent, parce que de toute façon, enfin, on l'a vu encore récemment, je crois que c'était une journaliste de la Renaissance qui exposait des photos du bâtiment en question, où effectivement on est sur quelque chose qui va pas pousser les gens à devenir bénévoles dans les associations. Aujourd'hui, il y a un enjeu à recréer aussi cette attractivité. On parle d'une bourse du bénévolat, faire en sorte à ce que les associations qui ont des besoins, certains ont besoin d'un trésorier, d'autres ont besoin de quelqu'un qui puisse accompagner sur une manifestation ponctuelle une fois dans l'année, d'autres sur une semaine parce qu'il y a un temps fort, etc. Et ben aujourd'hui, ces associations, elles ont parfois du mal à rencontrer les bénévoles qui eux-mêmes ne savent pas où s'engager parce que parfois, ils ont effectivement des disponibilités qui ne correspondent pas aux associations qu'ils rencontrent. Et demain, avoir aussi ce temps fort de bourse du bénévolat, moi je souhaite qu'on recrée ce sens civique qu'est le bénévolat associatif. Je suis moi-même très engagé dans de nombreuses associations et l'engagement politique que j'ai, je crois qu'il en fait aussi partie. C'est du bénévolat civique. Et ben, je souhaite qu'on puisse mobiliser encore plus la population sur ce type d'éléments. Mais encore faut-il lui donner les moyens et l'envie de s'engager. Et quand on voit aujourd'hui la manière dont les locaux associatifs ont été laissés à l'abandon, on peut s'interroger.
Je reviens sur un point que vous disiez. Donc vous voulez subventionner le bénévolat?
Non, pas le subventionner. Vous avez raison. Quand je parlais de bourse au bénévolat, la bourse, c'est au sens un temps de rencontre où ceux qui proposent, c'est comme une bourse à l'emploi, si vous voulez, comme ceux qui proposent une offre puissent rencontrer ceux qui sont prêts à répondre à cette offre-là. Et donc, c'est vraiment avoir de façon digitalisée des gens qui puissent dire, bah voilà, moi j'ai envie de m'engager dans ce type d'association et j'ai envie de fournir tel type de compétences, et qu'en face, les associations puissent aussi créer comme des offres d'emploi, dire, bah voilà, ou des offres de bénévoles. Nous, on a besoin d'un bénévole qui puisse s'engager pour faire ça et pour faire ça. Je prends un exemple simple, là, sur le domaine de la radio, bah effectivement, peut-être qu'il y a des seniors ou des jeunes qui ont envie de se dire, bah moi j'ai envie de m'engager, mais j'ai peur de venir taper à la porte parce que peut-être qu'on va me demander beaucoup plus que ce que je suis prêt à donner. Et bien, que vous puissiez avoir formalisé ça à travers une plateforme numérique qui dise, nous on est prêt à accueillir tel type de bénévoles, et que les bénévoles soient prêts à vous répondre en vous disant, bah moi je suis prêt à donner tant de temps, ça permettra de créer ces rencontres entre la population et les associations, et redonner un peu d'énergie au bénévolat, où on voit, et vous le voyez vous les uns et les autres dans vos associations, où c'est de plus en plus compliqué de recruter de nouveaux bénévoles.
C'est pas ce que fait déjà le forum de l'engagement pour vous ?
C'est ce que j'allais dire.
Si, mais aujourd'hui, il y a deux aspects sur ce forum-là. Le premier, c'est que d'un point de vue calendaire, il n'est pas au bon moment. Et le deuxième élément, c'est que c'est un temps physique. Or, une fois de plus, dès l'instant qu'il n'est pas au bon moment et que c'est un temps physique, eh ben, en réalité, il brasse effectivement des centaines de personnes. Mais on est dans une ville de 45 000 habitants où on peut effectivement avoir des moments. Une perte d'emploi, ben moi j'ai 3 semaines entre 2 emplois où j'ai envie de m'engager dans la vie associative, c'est pas à travers ce forum qu'on peut y répondre. Par contre, si effectivement on était en complément de ce forum sur une plateforme digitalisée, il faut aujourd'hui aussi accepter la modernité, eh bien on pourrait avoir quelqu'un qui dit, bah voilà, moi j'ai 2 semaines à donner, je vais aller donner un peu de temps dans telle association, parce que justement ces associations, elles ont besoin de moi, justement de façon très ponctuelle à ce moment-là.
Alors France Bénévolat s'installe à Blois, voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec le bénévole sur cette antenne, donc qui va se développer, j'espère, et qui sera un bon tremplin pour les bénévoles.
On se laisse 3 minutes maximum, mais si vous avez un dernier mot, une dernière question, c'est le moment.
Moi, je vais un petit mot, mais allez-y, qui sort un peu du contexte. Je suis un peu déçu que vous ayez, par 2, presque 3 fois, attaqué la municipalité sortante, dans la mesure où nous sommes venus juste vos idées, votre programme, et qu'on ne visait pas un débat à charge.
Alors, voilà. Non, mais un élément de réponse là-dessus, hein, on est bien sur une campagne municipale où à la fois je dois faire des propositions, mais je dois aussi dresser le bilan. C'est mon rôle de minorité politique. Je suis aujourd'hui dans l'opposition. Je suis élu au conseil municipal de Blois en tant qu'opposant. Et au contraire, je ne ferai pas mon rôle. Je ne serai pas dans mon rôle si je ne donnais pas mon avis sur le bilan. Donc, ce n'est pas des attaques, c'est bien des constats.
Ouais. Nous n'avons pas donné notre avis sur vos propositions.
Alors, très ouvert, on peut refaire une émission.
On n'aura pas le temps, Rémi. Loredana, Marie-Noël, rien à rajouter. Alors, je laisse un mot de la fin à Malik Benakcha.
Un enjeu clair pour moi, c'était vraiment aussi de pouvoir rassurer. Je le disais tout à l'heure, il y a un enjeu de tordre le cou selon cette idée qu'on serait plutôt pas de gauche et plutôt de droite. On serait anti-culture, anti-association, anti-social. Nous, au contraire, notre enjeu est bien de montrer que déjà sur un volet purement municipal, ce clivage, il n'a pas forcément toujours de sens. Et puis, bien expliquer qu'on a effectivement une appétence, une compétence, une volonté de faire sur ces domaines-là. Et donc, ben, merci de l'invitation parce que ça m'a permis de le faire à la fois sur le bilan du maire sortant mais aussi sur nos propositions.
Merci, Malik Benakcha, candidat de la droite et du centre donc à l'élection municipale de Blois. Le scrutin, on le rappelle, c'est le 15 et le 22 mars. Merci à vous trois, la maison de Bégon,
merci
et
Thomas,
le château
d'eau,
d'avoir participé, d'avoir étrenné ce format. J'espère qu'il vous a satisfait. En tout cas, d'un point de vue radiophonique, je crois qu'on a produit un bon contenu et ça, c'est ma satisfaction personnelle. Merci donc à tous et à toutes. Les programmes continuent sur Studio Zef. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci.